Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, on vous propose un débat sur le débat à l'occasion de la journée spéciale sur France Culture consacrée à l'état du débat public. Des médias aux réseaux sociaux, le clash est-il un modèle économique ? Si la polémique a toujours fait vendre, c'est désormais sur les réseaux sociaux que se multiplient les propos outranciers et les disputes éphémères, à tel point que beaucoup déplorent une détérioration du débat public. Mais si cette déliquescence est réelle, qui en est responsable ? Les plateformes et les médias favorisent-ils vraiment le clash à des fins économiques ? Comment ce modèle s'est-il construit et surtout comment revenir à un débat plus apaisé ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir autour de la table trois invités, Sylvain Parasi, sociologue, professeur à Sciences Po, Anne Belon, politiste, maîtresse de conférences à l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne, et Éric Brousseau, économiste, directeur de la chaire Gouvernance et Régulation. À 14h45, racontez-moi l'écho, nous reviendrons sur les origines de la presse américaine à travers le film de Samuel Fuller sorti en 1952, Violence à Park Row. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'abord, est-ce qu'on peut parler d'une dégradation du débat public en France ? Selon un sondage Opinionway, 87% des Français ont le sentiment que dans les médias, on privilégie la polémique plutôt que le débat constructif. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau, Sylvain Parasi ?
Et c'est une question un peu difficile, effectivement, de se mettre d'accord sur l'existence ou non d'une véritable détérioration du débat public. Moi, j'aurais tendance d'abord à dire que avec le numérique, avec Internet, avec les réseaux sociaux, finalement, il y a quand même eu la libération d'une parole. Et peut-être aussi l'essor de formes d'intervention publique un petit peu différentes. Hein. Concrètement, il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas prendre la parole publique, qui n'avaient pas, tout simplement parce que tout un ensemble de professionnels des médias et puis de la parole publique fermée empêchaient cette parole publique. Et donc, d'une certaine manière, moi, en premier lieu, j'aimerais dire que quand même, on a assisté comme ça à un assouplissement des contraintes pesant sur la parole publique, et il faut quand même en partie s'en réjouir, parce que c'est en même temps peut-être ce signe d'une parfois de ce qui est perçu comme une agressivité, comme une violence partagée, c'est aussi le signe que eh bien davantage de gens peuvent prendre la parole.
On peut aussi faire l'hypothèse que le débat public n'est pas de moins bonne qualité, mais que ses éléments les plus provocateurs, les plus caricaturaux sont davantage mis en avant, Anne Belon ?
On peut faire cette hypothèse, je ne suis pas sûre que, en tout cas, elle soit vérifiée par les différents travaux, du moins sur le numérique. En fait, on assiste à une littérature qui est très contrastée sur le sujet et qui tend plutôt à distinguer différents espaces de discussion selon d'abord le public. Est-ce que c'est un public hétérogène ou homogène ? Est-ce que vous connaissez les gens avec qui vous discutez ? Selon le sujet, dont on parle, il peut y avoir des réactions très différentes si on parle d'une personnalité publique ou d'un sujet plus personnel, plus intime, et aussi selon l'architecture des plateformes sur lesquelles on s'exprime. Je pense qu'on reviendra dessus, mais on voit qu'il y a vraiment une pluralité d'espaces de discussion qui existent et qu'il est difficile de poser un constat très uniforme en fait sur la qualité du débat public aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que montrent les différents travaux de chercheurs qui travaillent sur ces sujets.
Difficile de savoir si le débat public se détériore en général, étant donné effectivement qu'on parle à la fois des médias traditionnels, des plateformes. Éric Brousseau, il y a une diversité, comme le disait Anne Delon.
Oui, tout à fait. En fait, le numérique a produit deux effets fondamentaux sur les médias. D'une part, il y a une démultiplication des canaux de diffusion de l'information, des canaux d'échange d'information, avec aussi une démultiplication des packaging. Il y a la délinéarisation, etc., etc., qui fait qu'on peut on peut avoir accès à de l'information, accès à des échanges, etc., sous différentes formes. Et par ailleurs, il y a cette capacité qu'on a avec le numérique de de cibler en fait différentes audiences. Et au fond, la combinaison de ces deux effets, alors de cibler différentes audiences, à la fois de les cibler avec des messages publicitaires et de les cibler du point de vue simplement de l'audience et de l'accès à des contenus et d'accès à certains types de modes d'échange, etc. Les auditeurs de France Culture, voilà, s'attendent à autre chose que d'autres types d'auditeurs qui écoutent d'autres radios, etc. Et au fond, en fait, il y a une démultiplication des combinaisons, parce que par ailleurs, il y a aussi des modèles gratuits et des modèles payants. Et les modèles gratuits et les modèles payants n'ont pas le même rapport, en fait, à l'audience. Tout ça fait qu'il y a une multiplication des types de médias qui finalement obéissent à des règles assez différentes.
Et d'ailleurs, c'est toujours très difficile de séparer, de distinguer ce qu'on appelle les médias traditionnels des nouveaux médias. Mais tout de même, si on parle par exemple de la radio, de la télévision, ce que l'on constate, c'est que ces médias traditionnels, Sylvain Parasi, voient peut-être dans le clash ou le buzz un moyen de survivre dans un environnement archi-concurrentiel, et c'est par exemple ce qui explique peut-être le choix d'Europe 1 d'embaucher dans son service politique Louis Dragnel, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. C'est aussi Éric Zemmour sur CNews et toute l'émission de Pascal Pro. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je disais tout à l'heure que je pense qu'il fallait pas s'inquiéter comme ça trop vite d'une détérioration du débat public, notamment parce que, comme vous le disiez Anne, il y a en même temps vraiment différents espaces, mais il y a quelque chose quand même qui est très important et qui structure en partie notre conversation d'aujourd'hui, c'est la radicalisation du paysage médiatique de droite aux États-Unis. Qui est évidemment toujours en arrière-fond de nos discussions, puisque en fait, aujourd'hui, quand on débat d'Éric Zemmour à la télévision dans ses interventions, on se dit mais est-ce que c'est le Rush Limbaugh, ça fait partie de ces personnalités qui annoncent un paysage politique et médiatique de droite qui serait coupé, insularisé, comme on l'a montré aux États-Unis.
Est-ce que CNews est un Fox News à la française?
Exactement. C'est quand même la question importante, hein, et là-dessus, je voudrais peut-être faire référence à un travail vraiment remarquable de Benkler et d'un ensemble de chercheurs américains qui ont travaillé vraiment sur la campagne présidentielle américaine de 2016 et immédiatement après. Et ce qu'ils observent est très intéressant. En fait, ce qu'ils observent, c'est une forme de radicalisation de cet écosystème médiatique de droite, mais uniquement à droite, ils l'observent pas à gauche. Et ce qu'ils observent à droite, c'est finalement à la fois des hommes politiques, des médias qui effectivement poursuivent des modèles économiques bien précis et qui en appellent à des contenus émotionnels très clivants, qui abandonnent les normes journalistiques classiques. Et la question, c'est une des questions centrales, c'est est-ce qu'on vit la même chose ici?
Alors on peut se poser la question effectivement en France comme aux États-Unis et se poser notamment la question, Anne Belon, si les médias sont le reflet ou la cause de la droitisation de la société française, de la montée en puissance des questions identitaires, c'est un peu la question qu'on peut se poser.
Alors, une droitisation, ce que montre, pour rebondir sur cette étude qui est vraiment remarquable à plusieurs égards, donc c'est vrai qu'elle ouvre plusieurs pistes de réflexion, c'est aussi que, d'une certaine manière, à la fois les dérégulations qui sont produites dans les années 80 et l'avènement de nouveaux espaces et de nouvelles audiences, en fait, sur le numérique, a fait émerger un écosystème très à droite, médiatique très à droite, qui n'existait pas avant. Et ce qui montre, c'est que Fox News, mais Breitbart, par exemple, sont des médias extrêmement récents. Et donc ça, on peut dire voilà qu'il y a une forme de droitisation par l'émergence, en tout cas, d'un espace de discussion qui n'existait pas et qui, par ailleurs, s'insularise de plus en plus. Mais ce que je trouve intéressant dans leurs travaux plus récents, alors sur la campagne de 2020, c'est qu'ils montrent aussi que ces stratégies de campagne mises en place par l'extrême droite ont tendance à s'institutionnaliser. C'est-à-dire qu'elles sont reprises, par exemple, de plus en plus par les membres du Parti républicain, qu'elles ne sont plus stigmatisées, en fait, dans la campagne, mais qu'elles se diffusent et qu'elles deviennent une forme de norme de discussion politique dans la campagne américaine.
Si elles deviennent une norme, ça soulève un certain nombre de questions, Éric Brousseau, et notamment cette question autour du modèle économique de ces médias traditionnels. Est-ce qu'ils ont besoin, en quelque sorte, de la polémique pour continuer à exister, à trouver leur place, avec l'idée que l'objectif final, c'est augmenter l'audience, ou est-ce qu'à l'inverse, on peut se dire qu'ils ont un risque de mauvaise réputation lié à cela et qui ferait que les publicitaires ne voudraient plus être associés à ces contenus?
Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Il y a différents médias qui se sont développés et il me semble important déjà de distinguer en gros ce qu'on appelle les mass médias, donc qui choisissent pas, qui sélectionnent pas leur public, même si leur public s'auto-sélectionne, et les réseaux sociaux type Facebook, etc., dont le modèle en fait est de vous enfermer dans un tunnel informationnel, hein, et donc il y a pas du tout exact, enfin ça ne fonctionne pas de la même façon. Ça a des effets sur les deux, ont des effets sur le débat public. En gros, pour faire très vite, d'un côté, on a une démultiplication des canaux de diffusion de type mass-média, avec notamment de plus en plus de mass-médias spécialisés qui se battent pour, effectivement, pour ceux qui sont des modèles commerciaux, pour capturer l'audience, une audience de plus en plus dispersée, mais aussi des budgets publicitaires de plus en plus rares, puisqu'il y a une bonne partie des budgets publicitaires qui vont sur Internet et sur les réseaux sociaux, etc., etc. Où on peut faire autre chose, du micro-targeting, c'est-à-dire en fait de la publicité très personnalisée en fonction de l'analyse des données, etc., etc. Et là, dans ce qui se passe sur Internet, c'est que les gens s'enferment dans des bulles informationnelles. Donc, une partie des utilisateurs, évidemment, hein, une partie des utilisateurs s'enferment dans des bulles informationnelles. Et donc, si je suis intéressé par les arguments des gilets jaunes, au bout d'un moment, je ne vais plus voir que ça sur mon Facebook, etc., etc. Et je vais aimer ça puisque c'est des gens qui sont d'accord avec moi, etc. Donc en fait, c'est des endroits où il n'y a pas de débat et c'est des endroits effectivement où se développe tout le phénomène des fake news, etc. Et les médias traditionnels perdent leur légitimité, etc., etc. Et donc effectivement, il y a des moteurs économiques derrière tout ça, mais évidemment, c'est pas les seuls éléments. Et ce qui se passe quand même, c'est que les masses médias traditionnels et notamment les médias spécialisés, eux, comme ils se battent pour essayer de capturer des audiences, c'est intéressant pour eux d'aller capturer ces audiences qui ont des œillères.
Pourquoi?
Parce que en fait, c'est des audiences qui peuvent être fidèles s'ils continuent à entendre ce qu'ils veulent entendre. Mmh. Et du coup, effectivement, ça permet d'attirer des budgets publicitaires particuliers, en quelque sorte.
On peut se demander si c'est vraiment un bon calcul économique, Sylvain Parasi, et on peut se demander pourquoi, tout simplement, la polémique entraîne de l'audience. Est-ce que c'est parce que ça répond à un besoin de divertissement davantage que d'information?
Alors, c'est vrai que c'est une question intéressante de se dire pourquoi les individus aiment la polémique, aiment la discussion. Je pense qu'il faut en revenir à un des sociologues tout à fait classiques, un des premiers, qui est Gabriel Tarde, qui se demandait mais pourquoi on s'intéresse à l'actualité, pourquoi on s'intéresse à l'information. Et ça, sa principale réponse, c'était parce que ça alimente les conversations, hein, parce que ça nourrit les sociabilités. Et finalement, on peut se dire qu'effectivement, ce type de contenu mettant en scène des opinions tranchées, eh bien, c'est du prêt à discuter. C'est un carburant pour les conversations quotidiennes. Et vu sous cet angle, effectivement, on peut dire que ça remplit une certaine fonction sociale.
Et on peut se dire que ce n'est pas étonnant que les médias traditionnels fassent ce choix parce qu'ils sont contraints par des difficultés économiques importantes. Anne Belon, qui fait qu'il y a, par exemple, moins de reportages sur les chaînes de télé, plus de débats avec l'arrivée d'Internet. Ils ont été particulièrement bousculés, comme le disait aussi Éric Brousseau.
Alors oui, il y a eu une fragilisation des modèles économiques traditionnels de ces médias qui, quand même, pour une part, je voudrais peut-être nuancer cette vision très négative. Je pense qu'on a encore des médias qui font des très bons reportages, que ce n'est pas une case journalistique qui a totalement disparu. Après, oui, il y a des nouveaux médias qui ont pris cette stratégie, qui d'ailleurs ne va pas toujours jouer sur la virulence du débat. Par exemple, Internet a vu aussi se développer tous les médias en fait autour de l'infotainment, donc des espèces d'hybrides entre de l'information et du divertissement, où là vous avez un peu des attrape-clics, des contenus qui vous demandent assez peu de réflexion mais qui vont beaucoup séduire sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on a un bouleversement des modèles économiques et que dans une partie de ces modèles économiques, qui est celui plus de la gratuité et de l'attention, le contenu virulent est un bon produit informationnel, on va dire, puisqu'il suscite de l'engagement de la part des utilisateurs de plateformes et des commentateurs, et donc qu'il va créer du débat, du contenu sur les différents supports numériques qui peuvent être aussi bien un site de grands médias que d'ailleurs une plateforme.
Ce qu'il faut bien comprendre peut-être, c'est que ce n'est plus l'information mais l'attention qui est rare aujourd'hui, Éric Brousseau, d'où l'émergence de ce qu'on appelle l'économie de l'attention.
L'économie de l'attention, ça a toujours été au cœur des modèles de diffusion et des biens culturels et des biens de divertissement.
Enfin, c'est le temps de cerveau disponible.
On a un temps de cerveau. Alors il y a deux choses. On a un temps de cerveau disponible limité et on veut finalement l'utiliser au mieux. Et donc on va concentrer son attention sur les contenus, encore une fois, qu'ils soient culturels ou du divertissement, qui sont susceptibles de nous intéresser le plus, de nous procurer le plus de plaisir. Et en fait, c'est ce qui entraîne toute l'économie du star system, c'est-à-dire que tout le monde va faire le même raisonnement. En fait, Madonna danse un tout petit peu mieux ou chante un tout petit peu mieux, 1% de mieux que l'autre chanteuse qui lui ressemble. Et on sait qu'avec elle, on va avoir le show, le meilleur show, etc. Et donc, on y va. Et donc, c'est ce qui fait que toute l'ascension va se concentrer sur Madonna ou Dua Lipa pour faire plus moderne. Bon, et donc après, vous allez avoir une distribution qu'on qualifie en science de distribution de puissance, où en fait il y a un tout petit nombre d'acteurs, alors d'artistes, d'hommes politiques, de polémistes et de médias qui vont concentrer 80-90% de l'attention. Et puis ensuite, vous allez avoir un très grand nombre de médias ou d'artistes, etc., qui vont avoir des très petites audiences.
Mais le talent des géants du numérique, ça a été précisément d'élargir les territoires, c'est-à-dire de capter l'attention des gens à de nouveaux moments.
Alors, effectivement, le numérique fait que on est capté, l'attention est captée à plusieurs moments, ce qui explique en partie cette multiplication des médias, et ce qui explique aussi qu'on soit pris dans ces tunnels informationnels et dans cette addiction. Certains vont avoir une addiction à la musique classique et d'autres au clash quand même. Et, hein, il faut quand même, il y a des, tout le monde n'est pas addict au clash, tout le monde n'est pas addict aux débats stupides, aux blagues de Cyril Hanouna, etc., etc. Donc en fait, il y a quand même des médias très diversifiés qui s'adressent à différentes audiences. Un des points importants, c'est qu'on en parle beaucoup dans le débat public de ce qui se passe, enfin autour du clash, etc. Parce que ça fait, c'est certains types de médias, ces chaînes d'information spécialisées, etc., qui ont besoin de remplir leur grille, en fait. Hein.
Expliquez-nous, Sylvain Parasi, comment, en quoi consiste justement ce modèle économique des GAFA, des plateformes, qui est fondée sur la mise en relation des producteurs d'informations et des consommateurs. Comment est-ce qu'ils se rémunèrent concrètement?
Et concrètement, c'est vrai que les plateformes ont des modèles finalement bon qui ont été notamment bien étudiés récemment avec beaucoup de débats, notamment par Shoshana Zuboff. C'est-à-dire c'est quand même beaucoup la question de l'autre marché qui est de capter l'attention d'une part effectivement, et puis ensuite vendre des prédictions, hein, des prédictions et de la publicité évidemment à tout un ensemble d'annonceurs avec la promesse d'une publicité très très ciblée. Destiné aux entreprises qui achètent ou qui sont à la recherche évidemment de cette attention.
Le problème, c'est que ces plateformes ont un pouvoir démesuré, Anne Belon, un pouvoir prescriptif. Elles sont devenues, elles se sont mises en charge en quelque sorte d'une hiérarchie de l'information.
Alors, pour revenir sur deux petites choses, je voudrais dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement l'attention en fait des utilisateurs, des internautes que veulent capter les plateformes, c'est aussi leur engagement. Parce qu'en fait, les données, elles sont beaucoup construites sur ce qu'ils font en ligne. D'où peut-être une différence par rapport à ce modèle de l'attention, avec cette phrase bien célèbre de vendre du temps de cerveau disponible à des publicitaires, alors que là, on veut vendre en fait des traces de leur participation à différents débats qui vont permettre une autre forme de ciblage publicitaire, ce qui est intéressant. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les pratiques informationnelles des Français, on voit que c'est encore la télévision, la radio qui sont les plus utilisées pour s'informer. Donc bien sûr, si on va chez les jeunes, bah, y a un petit peu plus, le rôle des médias sociaux est un peu plus important, mais je pense qu'il ne faut pas grossir excessivement le rôle de ces médias, notamment de Twitter, dans l'accès à l'information.
En revanche, pour ceux qui s'informent par Internet, on a l'essentiel du trafic qui transite désormais par seulement quelques sites.
Alors, le web s'est, en quelques années, fortement concentré autour des grandes plateformes. Ça, c'est sûr, en termes de contenu, mais aussi en termes de visites. Après, ce qui est intéressant, c'est que Internet va aussi permettre, en fait, à certains de développer des stratégies un peu de contournement. Et je pense qu'il y a est intéressant, c'est aussi de voir des personnes qui utilisent le numérique pour avoir accès à des médias alternatifs et justement construire une critique de ce qu'ils vont appeler les médias dominants. Donc je pense que là, une fois encore, la technologie est l'objet de plusieurs appropriations, de plusieurs stratégies de la part aussi bien des médias que des utilisateurs qui font qu'il est difficile en fait d'avoir une réponse très unifiée à une telle question.
Sur ce pouvoir des grandes plateformes qui vont hiérarchiser l'information et choisir peut-être de mettre en avant tel ou tel média traditionnel ou au contraire tel ou tel contenu qui viendrait d'un nouveau média et qui n'aurait pas l'étiquette, la reconnaissance du milieu du journalisme. Éric Brousseau, il y a une méfiance, une peur autour de ce pouvoir qui serait démesuré?
Bah, d'abord, il faut revenir quand même. Enfin, on parle des plateformes numériques, mais il y a des plateformes en fait de genres très très différents. Il y a les plateformes qui sont les plateformes d'organes de presse, par exemple, donc qui hiérarchisent l'information, etc. Il y a et qui concentrent de l'attention. Hein, aujourd'hui, le New York Times, Le Monde en France, etc. Hein, concentrent l'attention parce que ce sont des médias de référence, etc. Et ils ne participent pas a priori, justement, à la dégradation du débat public. Par ailleurs, il y a d'autres plateformes. Google est une plateforme informationnelle, mais Google, en fait, à ma connaissance, ne hiérarchise pas les contenus informationnels de manière totalement biaisée. En fait, ce que fait Google, c'est qu'il essaye d'anticiper en fait ce que vous cherchez vous. C'est à force d'observer vos recherches, il va sélectionner en fait les sources d'informations qui vous plaisent d'habitude, ce genre de choses. Et éventuellement, il va vendre à des tiers des profilages fins qui fait que effectivement vous allez avoir des contenus sponsorisés. Mais le contenu sponsorisé, il peut aussi bien être pour des voyages aux Bahamas que pour vous orienter en fait sur un site informationnel particulier. C'est comme de toute façon les médias n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser en publicité, c'est pas tellement eux qui vont faire beaucoup de ventes d'informations. Alors après, il y a les partis politiques, etc., etc. Là, c'est autre chose. Hein. Donc effectivement, dans le cadre des campagnes, il y a du ciblage, etc.
Mais ce qui peut inquiéter, c'est la dépendance des médias que vous citez, le New York Times, Le Monde, face à des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, qui ont un pouvoir qui est particulièrement important aujourd'hui, Éric Brousseau.
Oui, mais Facebook, alors il y a justement Facebook et Twitter, c'est des choses assez différentes en réalité. Facebook, son modèle, on l'a dit tout à l'heure, c'est en fait de vous enfermer dans votre bulle informationnelle. Facebook, vous y allez pour voir des nouvelles de vos amis, etc., et voir des nouvelles de gens qui vous ressemblent. On vous suggère des gens, etc. Donc, si vous avez cliqué 2-3 fois sur des trucs de gilets jaunes, hop, on va vous en remettre, etc., etc. Donc, le Facebook, en fait, n'est pas,
enfin, Twitter est un système beaucoup plus ouvert.
Et Facebook ne va pas vous rediffuser les contenus du Monde, etc. Twitter, c'est autre chose. Twitter, c'est un média, c'est un mass média beaucoup plus qu'une plateforme, et c'est un mass média qui est utilisé dans certains milieux, et notamment surreprésenté en fait dans les milieux de la décision politique et un peu de la décision économique, mais encore surtout de la décision politique, et des journalistes, enfin, etc., des gens qui font l'opinion, et donc en fait c'est un média qui est utilisé pour faire du buzz, comme on dit, etc. C'est fait pour ça, et effectivement, compte tenu de la nature des messages qu'on peut poster, etc., évidemment ça encourage pas à de l'information nuancée, des messages, enfin voilà. Donc ça participe de cette polarisation du débat.
Quel est le positionnement de Facebook par rapport aux médias traditionnels, Anne Belon, est-ce que Facebook n'a pas voulu prendre de la distance avec les médias et se recentrer sur son rôle premier de réseau social ?
Alors oui, il y a eu une transformation très importante dans les choix algorithmiques de Facebook, dans les contenus qu'il sponsorisait. C'est-à-dire qu'il y a aussi une oscillation en fait dans le modèle des plateformes. Et c'est vrai qu'à un moment, Facebook a voulu adopter un modèle où vous auriez utilisé ce réseau social plus comme un fournisseur d'informations, plus ou moins, voilà, qui serait basé plus ou moins sur ce que vos amis aiment, mais aussi sur ce que vous avez liké auparavant. Et puis, il y a quelques années, ils ont voulu revenir à l'origine, à ce qui était l'origine, le modèle d'origine de cette plateforme, qui est celle du réseau social, et davantage valoriser les contenus de vos amis, que partagent les personnes de votre réseau. Après, c'est très difficile de connaître exactement comment fonctionne l'algorithme de Facebook, mais on a observé en tout cas cette profonde évolution. Et je pense d'ailleurs, et les travaux le montrent, que Facebook n'est pas forcément le réseau sur lequel les débats sont le plus violents. Il y a des chercheurs qui ont montré, par exemple, que comme vous êtes dans un réseau d'interconnaissance, vous avez tendance peut-être à un petit peu plus, vous polissez votre prise de parole sur Facebook que dans les commentaires d'un mass média où là vous vous adressez à un public que vous ne connaissez pas.
Des débats moins violents mais qui posent d'autres problèmes, c'est-à-dire peut-être ce manque d'ouverture à des opinions qui ne sont pas les vôtres, Sylvain Parasi.
Oui, alors effectivement, les travaux, quand on regarde les travaux sur l'ouverture justement ou cet enfermement, ils sont assez partagés. Hein, c'est-à-dire que finalement, quand on regarde sur Twitter par exemple, hein, et sur les réseaux sociaux en général, mais sur Twitter en particulier, on voit que évidemment, selon leur orientation politique, la plupart des utilisateurs vont être soumis plutôt à des contenus, une majorité de contenus qui vont dans leur sens, ça c'est clair. Mais en même temps, une partie d'entre eux vont pas être totalement dans une chambre d'écho, hein. C'est-à-dire qu'ils vont en même temps être soumis aussi ou avoir écho vraiment d'opinions qui vont être contraires aux leurs. Et un point qui me semble important, c'est que on compare évidemment les réseaux sociaux sont évidemment des espaces de discussion. Et il faut les comparer aussi, pas forcément avec les médias, mais il faut aussi les comparer avec quels sont nos espaces de discussion et quand est-ce qu'on parle politique dans nos espaces ordinaires. Et les études montrent très bien que en fait, on parle politique avec qui ? La plupart des gens parlent politique en famille, au travail, quand ils sont sûrs que les gens avec qui ils parlent partagent leurs opinions. Hein, donc on peut avoir malgré tout une certaine diversification des orientations parfois de contenu sur les réseaux sociaux.
Il faut aussi évoquer le phénomène des fake news qui prolifèrent sur les réseaux sociaux. On en a déjà beaucoup parlé, mais c'est intéressant de voir qu'elles ont donné naissance à une économie du doute parce qu'il est finalement beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de produire de la vraisemblance que de la vérité, Éric Brosseau.
Et oui. Non, bien. Alors, mais enfin, l'économie des fake news, je suis pas certain finalement que elle s'explique principalement par des histoires de coûts et parce que ce serait un modèle économique moins coûteux que de produire de l'information sérieuse. Les phénomènes des fake news, c'est une volonté. C'est une volonté de changer en fait la donne du débat politique de la part en fait des populistes qu'ils soient de gauche ou de droite, mais ceux de droite ont plus d'argent, donc ils ont réussi en fait à mieux le faire d'une certaine manière, et ils ont réussi à gagner une élection présidentielle américaine grâce à ça. Donc
mais du voilà. Côté des plateformes, dans le fait de réguler ou non ces fake news, est-ce qu'il n'y a pas une dimension économique, Anne Belon?
Alors là où il y a peut-être une dimension économique, c'est qu'il y aurait en fait ce qui s'est passé autour du scandale, par exemple Cambridge Analytica, dont d'ailleurs les effets réels en fait de ces manipulations de l'information sur les résultats électoraux ne sont absolument pas prouvés. Mais en tout cas, il y a des effets de réputation sur les plateformes, et l'effet de réputation pour Facebook a été très négatif. Le cours de l'action en bourse a chuté après les révélations de Cambridge Analytica. Et la prise en main par les plateformes aujourd'hui de ce problème public qui a été, vraiment d'une manière sociologique, qui a été monté comme problème public par des gens et pas forcément par les scientifiques qui regardent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, a fait que pour garder en fait leur clientèle, c'est-à-dire leurs utilisateurs, ils se sont engagés dans ce combat contre... Alors, des fake news, moi j'ai un peu de mal avec ce terme, mais en tout cas, différentes stratégies de désinformation qui sont en effet de plus en plus utilisées, notamment par des personnalités politiques de droite, voire d'extrême droite.
Mais c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est peut-être plus pour une question de réputation que pour autre chose que ce que les réseaux sociaux et les plateformes vont s'auto-réguler.
Je pense que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est, encore une fois, j'y reviens, mais peut-être à la comparaison franco-américaine. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est des hommes politiques ou des personnages politiques de premier plan qui vont recycler de la désinformation qui prolifère dans des réseaux très militants en ligne. D'accord? Parce que, d'une certaine manière, et j'y reviens dans cet écosystème médiatique de droite, les verrous ont sauté. C'est-à-dire que la différence entre fait et opinion, elle est plus tout à fait valable. Si on regarde le cas français, c'est pas le cas. Moi, je suis très intéressé par voir que, quand on voit des tentatives, il y a des tentatives, il y en a presque très régulièrement, que ce soit effectivement un discours d'Éric Zemmour qui va propager des contre-vérités, ou bien ça peut être parfois des couvertures de Valeurs Actuelles ou des sujets dans Valeurs Actuelles. Ce qui est très important, c'est pas le phénomène en soi, c'est la réaction, en fait, autour. On voit des syndicats de journalistes qui s'opposent, donc qui remettent en avant les normes partagées de la profession. On voit en même temps le CSA qui doit intervenir, qui enjoint d'intervenir sur ces questions. Donc en fait, en France, les barrières, elles existent en fait. Elles existent encore relativement. On voit pas le même phénomène de recyclage de propos comme ça.
Elles existent, mais est-ce qu'elles sont suffisantes, Éric Brousseau? En effet, vous parliez du CSA. Est-ce que ce cadre légal qui existe aujourd'hui, il est suffisant, par exemple, face aux dérives que l'on observe à la télévision?
Le cadre légal, il n'est pas adapté au numérique, fondamentalement, parce que d'une part, les autorités de régulation traditionnelles n'ont pas nécessairement légitimité à intervenir sur le numérique, enfin, ou sur certains types de médias, etc. Alors, même si on peut faire évoluer leur périmètre de compétences, mais surtout parce que, de toute façon, le problème, c'est que ces réseaux sont mondiaux. Même si le débat, ensuite, il s'organise, le débat politique s'organise encore largement au niveau national, etc. Mais le problème... je pense qu'une des raisons pour lesquelles les réseaux, les plateformes comme Facebook, etc., se sont intéressés, ont essayé de faire de l'autorégulation, puisque c'est ça la question, c'est que c'est pas simplement une question de réputation, c'est une question aussi de risque juridique. C'est que, en fait, ils ont bien compris que s'ils ne faisaient rien, leur responsabilité pourrait être engagée. Il y a eu une vague avant la question d'autorégulation sur le discours politique, les opinions, etc. Il y a une autre vague qui était sur, en fait, les droits d'auteur. Et donc, le problème de l'autorégulation par les plateformes, c'est que, d'abord, pour elles, c'est très compliqué, parce qu'elles ont affaire à des espaces juridiques extrêmement hétérogènes, et donc il y a des espaces juridiques où certains discours sont interdits, des espaces juridiques dans lesquels certains discours ne le sont pas, etc.
C'est etc. compliqué, c'est donc, coûteux, c'est, peut-être
C'est compliqué, c'est coûteux, elles ont beaucoup d'argent, donc je pense pas que ce soit vrai, mais c'est surtout que c'est compliqué, en fait. Alors, c'est compliqué, parce qu'en plus, si vous êtes un média qui est à la fois, par exemple, dans le monde arabe... et dans le monde occidental et en Israël, qu'est-ce que vous faites sur un certain nombre de choses qui donc c'est très compliqué.
Et en même temps, elles peuvent avoir beaucoup à perdre. Cet été, plus de 1000 entreprises dans le monde ont mis en pause leurs réclames sur Facebook, puisque le groupe était accusé de ne pas avoir retiré des propos de Donald Trump qui menaçait de tirer sur les fauteurs de troubles lors des émeutes contre l'injustice raciale. Anne Belon, est-ce qu'il faut compter sur l'autorégulation de ces plateformes, ou est-ce qu'il faut avancer dans la régulation contre celle-ci, alors même qu'on voit à quel point c'est compliqué, notamment sur Facebook?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on observe deux tendances. D'abord, il y a une demande sociale qui est de plus en plus forte pour que les plateformes interviennent. Je sais pas, par exemple, récemment, sur Instagram, il y a eu une campagne Stop Hate pour que le réseau social soit plus, plus proactif dans la suppression de commentaires plus ou moins haineux. Donc il y a cette demande sociale et puis il y a des risques juridiques mais qui évoluent eux aussi parce qu'il y a des nouvelles lois qui sont adoptées et qui font peser des risques, des possibilités de sanctions de plus en plus importantes sur les plateformes, notamment par exemple en Allemagne avec l'adoption de la loi NetzDG. Donc il y a ce contexte qui les pousse de plus en plus à intervenir. Par ailleurs, elle développe de nouveaux outils. Donc, il y a l'outil bien connu qui était des modérateurs, c'est-à-dire des équipes de sous-traitants qui allaient analyser un certain nombre de contenus pour les supprimer à la suite de signalements. Et aujourd'hui, de plus en plus, des outils algorithmiques qui visent à supprimer le contenu avant même qu'il soit publié sur la plateforme. En fait, ces outils, pour avoir un peu étudié ceux qui les créent chez Facebook, ils marchent pas très bien. Et notamment, ils marchent assez bien finalement pour des contenus terroristes, même s'il y a très souvent des ratés qui font d'ailleurs la une des journaux. Mais ils marchent très mal pour le cyberharcèlement. Parce qu'en fait, c'est très difficile pour une intelligence artificielle extrêmement formée d'analyser les subtilités et le contexte d'un discours. Donc, on est cette nouvelle configuration où, oui, la demande pour que les plateformes interviennent est de plus en plus forte. Les États vont dans ce sens puisqu'ils adoptent des législations de plus en plus contraignantes et d'une certaine manière déléguant une forme de régulation à ces plateformes privées. Et elles essaient de s'adapter avec de nombreux ratés, mais aussi de nombreuses questions posées sur, là, pour le coup, l'évolution du débat démocratique, parce qu'elles jouent un rôle qu'elles étaient plutôt réticentes à jouer auparavant dans la régulation de ces espaces de discussion.
Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport de force entre ces plateformes et les différentes autorités étatiques qui tentent de les réguler? Ce qu'on a vu lors de la visite de Mark Zuckerberg qui a rencontré Emmanuel Macron en France il y a un an et demi, c'est qu'il y avait beaucoup de blocages du côté de Facebook, qui refuse que le CSA ait accès à l'information interne, aux algorithmes. On voit que c'est quand même très difficile, Sylvain Parasi.
Alors, c'est très difficile. Moi, je partage vraiment ce que vous venez de dire, Anne. Je partage tout à fait cette idée qu'il faut trouver des façons de réguler et que les plateformes s'y emploient et que ça pose tout un ensemble de problèmes, notamment de frontières nationales et de culture nationale. Ça, c'est évident. Mais en même temps, je pense qu'il faut quand même accepter quelque chose. Bon, si on met de côté les propos haineux, de harcèlement, etc., il faut quand même en partie aussi accepter qu'on ait une parole un peu dérangeante sur une partie des réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Je pense que ça fait partie de cet espace-là. Je pense que il y a peut-être, moi, parfois, je suis un usager et je vois tout un ensemble de propos qui émergent parfois sur les identités postcoloniales, sur le féminisme, etc. Et parfois, cette critique ne prend pas toujours une forme très, très, très policée. On est d'accord. Mais, en même temps, elle apporte quelque chose, incontestablement.
Elle mérite de soulever un débat.
Tout à fait. Donc, il ne faudrait pas non plus tout enlever.
D'où le fait peut-être que la proposition de lever de l'anonymat ne vous paraît pas forcément une bonne idée, Éric Brousseau, avec cette idée que ça allait peut-être permettre de mettre fin au sentiment d'impunité en ligne. En réalité, peut-être on se trompe de cible.
Bon, de toute façon, je pense que c'est surtout, pourquoi pas, après tout, lever l'anonymat. Le débat public, il doit se faire, il n'y a pas de raison qu'il soit anonyme dans une société où on préserve les libertés individuelles, quand même, Donc, ça se discute. Mais la vraie question, c'est de savoir si c'est faisable. Bon, ça, c'est une autre question. Mais je voudrais revenir quand même, sur le fond de l'affaire, qui est de savoir si ce sont les plateformes qui doivent organiser, au fond, la censure. Parce que c'est ça la question. Alors, on pense que c'est elles qui doivent le faire parce que c'est elles qui ont les capacités techniques et les ressources pour le faire. Mais d'un autre côté, le problème, c'est que elles vont fonctionner comme une administration fonctionne, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à être trop prudentes, notamment à cause des risques juridiques qu'elles encourent. Et donc, en fait, elles risquent de surcensurer en quelque sorte, et du coup, et avec des mécanismes, avec une absence en fait de véritables mécanismes d'appel, ou des mécanismes d'appel qui vont passer par le système judiciaire, qui vont prendre beaucoup de temps, etc. Et donc en fait, voilà, on sait que la liberté de la presse, la liberté, les libertés civiques, en fait, elles sont défendues avant tout par un système judiciaire, et qui est une meilleure garantie qu'un système administratif, et c'est ça le problème.
Donc pour conclure, ce serait peut-être moins un débat public trop violent qu'une absence de débat public, une fin du débat public, Anne Belon, si les plateformes prennent trop à cœur leur rôle de régulation.
Je pense que c'est surtout une privatisation des règles du débat public, en fait. Ce sont des règles qu'il faut définir collectivement, et c'est vrai que cette tendance à déléguer aujourd'hui aux plateformes, parce qu'elles auraient plus de moyens technologiques et financiers, les choix en fait sur ce qui peut être dit ou non, est un peu inquiétant. Oui, ça, je suis d'accord avec vous là-dessus.
Éric Brousseau.
Je voudrais juste dire, je pense que c'est les citoyens, les communautés professionnelles qui doivent réguler le discours. Comme ça a été dit un tout petit peu plus tôt, c'est parce que on va réguler le discours en faisant des sites de vérification d'informations, en relativisant dans les mass médias ce qui est dit sur les réseaux sociaux, en expliquant dans les mass médias aussi ce que sont les réseaux sociaux et pourquoi ça déborde, etc., etc., plutôt que de dire que ça reflète l'état général de l'opinion et du débat public.
Merci beaucoup à tous les trois, Anne Belon, Sylvain Parasi et Éric Brousseau. Merci d'être venu partager vos analyses sur l'état du débat public en France. À présent, c'est l'heure de retrouver la chronique de notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Catherine André.
Bonjour Tiffaine.
Vous penchez aujourd'hui sur l'état du débat sur la réduction du temps de travail chez nos voisins.
Oui, tout à fait Tiffaine, car si en France il a plutôt été question de travailler plus pour relancer la machine économique, dans d'autres pays, la réduction du temps de travail est en effet davantage prise au sérieux et en tout cas n'est pas tabou.
Alors est-ce qu'il s'agit de mesures conjoncturelles pour faire face à la crise ou de mesures structurelles ?
Elle était envisagée comme une solution structurelle avant la crise sanitaire dans des secteurs ou entreprises de certains pays, comme par exemple dans le secteur de l'électricité en Autriche, de la sécurité aux Pays-Bas, avec une baisse de 2 heures hebdomadaires sans perte de salaire, ou encore à la Deutsche Bahn en Allemagne. Dans beaucoup d'autres, en effet, c'est une mesure d'urgence qui sert dans un premier temps à limiter les licenciements massifs provoqués par la crise. C'est le cas en Europe, notamment avec les dispositifs de chômage partiel temporaire, largement financés par les États et soutenus par l'Union européenne via le programme SURE, soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence. Et bien sûr, la France en a beaucoup profité. On a jusqu'à 100 milliards d'euros de prêts qui sont ainsi octroyés aux États membres pour leurs dispositifs d'activité partielle ou de mesures équivalentes. Mais le projet le plus abouti de baisse du temps de travail mêle en fait les deux objectifs et émane pour l'instant du puissant IG Metall, principal syndicat outre-Rhin et le plus grand d'Europe. Annoncée en août dernier, la proposition de passage à la semaine de 4 jours devrait être discutée lors du prochain round de négociations collectives début 2021. Chez IG Metall, on affirme qu'il s'agirait d'une solution efficace pour partager le travail. L'objectif premier est bien d'éviter les milliers de suppressions d'emplois qui s'annoncent dans l'industrie, mais la mesure permettrait également de conserver les emplois industriels indispensables et, selon les mots de Jörg Hoffmann, son président à l'origine de la proposition, je cite, d'apporter une réponse face aux changements structurelle à l'œuvre dans les industries telles que celle de la construction automobile. L'idée étant qu'à l'avenir, chaque entreprise de l'industrie métallurgique et électronique ait cette opportunité assortie d'une certaine compensation salariale et d'incitation à utiliser le temps libre ainsi dégagé pour la formation professionnelle continue. On le sait, il y a en Allemagne une tradition de baisse du temps de travail et de maintien de l'emploi dans les périodes de creux conjoncturels. Une mesure qui a été, je cite, « massivement utilisée au moment de la crise de 2008 et qui a très bien fonctionné. Elle a notamment permis de préserver le tissu industriel », rappelle Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE. Mais qui rappelle également la grande tradition de négociation outre-Rhin qui donne cette plus grande capacité d'anticipation, qu'ailleurs.
Et qu'en est-il dans les autres pays, Catherine ?
Alors, selon Stan Spiegelare, je m'excuse si je prononce mal son nom, chercheur senior à l'Institut syndical européen, beaucoup de syndicats dans différents pays européens se mobilisent actuellement, mais ils n'ont pour l'instant pas les réponses comme celles apportées par IG Metall, qui a le pouvoir de négocier le montant de la compensation salariale à la réduction du temps de travail. Mais les chercheur signale cependant une tendance intéressante au sein des syndicats européens qui commençait à se dessiner déjà avant cette crise, depuis environ 2 ou 3 ans. Je le cite, la question du temps de travail était devenue présente dans le débat syndical à l'échelle européenne avec l'analyse de retours d'expérience sur des expérimentations. La crise liée à la pandémie n'aurait pas fait faiblir cet intérêt, estime-t-il. Je le cite encore, on est clairement passé cependant de l'étude de la version offensive de la réduction du temps de travail à une version défensive avec pour but premier la sauvegarde des emplois plutôt que celle de l'équilibre vie professionnelle-vie privée. L'idée fait donc son chemin, gageons que les négociations chez IG Metall seront certainement suivies avec beaucoup d'intérêt.
Merci Catherine. Et un mot sur le numéro d'Alter Echo ce mois-ci?
Oui, alors ce mois-ci, on a toujours le numéro d'octobre en kiosque. Un monde sans croissance, c'est possible. Un gros dossier qu'il faut lire parce qu'il est plutôt enthousiasmant.
Merci Catherine. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Nous, dans un instant, on va voir comment l'économie flirte avec la fiction. Racontez-moi l'écho sur France Culture, consacré cette semaine au film de Samuel Fuller, Violence à Park Row. À New York dans les années 1880 et nous foulons le bitume de Park Row, cette artère new-yorkaise qui abrite tous les journaux de l'époque comme le sensationnaliste Star, dirigé par la belle et impitoyable Charity Hackett. Phineas Mitchell est un journaliste écœuré par ses méthodes et il décide de créer son propre journal, le Globe. Mais la concurrence est féroce et la rivalité va basculer dans la violence à Park Row. C'est le titre de ce film de Samuel Fuller de 1952, premier extrait.
Know what I'd do if I had a paper?
Here we go again. Daydreaming at night. And sober.
No, Mitch. What would you do?
First thing I'd do is christen it. I'd call it the Globe. I'd make it the best newspaper on Park Row. That's what I'd do. I'd give away free ice and coal and summer excursions. Christmas dinners for the poor. That'd make them happy and make news. News makes readers. Readers make circulation. And circulation makes advertising. Advertising means I'd print my paper without the support of any political machine. That's what I'd do if I had a newspaper.
Si j'avais un journal, je le baptiserais le Globe, j'en ferais le meilleur journal de Park Row, je donnerais de la glace, du charbon, des repas aux pauvres. Ça, ce sont des nouvelles. Les nouvelles font les lecteurs amènent de la publicité et la publicité me libérerait des pressions politiques. Voilà ce que je ferais si j'avais un journal. Bonjour Franck Laffont.
Bonjour.
Vous êtes enseignant en cinéma à l'université de Strasbourg. Parlez-nous d'abord de Samuel Fuller et de son rapport au journalisme. Il a été livreur de journaux, reporter de guerre et il rêvait même de posséder son propre journal.
Oui, alors en fait Samuel Fuller a effectivement commencé dans le monde du journalisme en bas de l'échelle comme l'un des personnages de son film Violence à Park Row, et puis il a intégré la rédaction en tant que journaliste criminel, la rédaction d'un tabloïd qui a une existence assez courte à New York, tabloïd qui s'appelait New York Evening Graphic et qui a été et qui est toujours d'ailleurs considéré comme l'un des pires tabloïds qui a jamais existé, mais Fuller lui trouvait que c'était le plus beau journal du monde. Et il a toute sa vie gardé un lien très fort avec cette expérience première, fondatrice même pour son cinéma.
Fuller qui a vécu
donc à ce film.
Fuller, voilà, qui a vécu ce journalisme des années 1920. Pourquoi décide-t-il alors, Franck Laffont, de situer son film dans les années 1880?
Alors 1880, en fait, c'est le moment où le journalisme qu'il a connu dans les années 1920 à New York trouve sa source, trouve ses racines. Il y avait ce moment-là, bon, plusieurs journaux importants qui existent encore, comme le New York Times par exemple, mais il y avait surtout une concurrence entre deux journaux. Il y avait d'un côté Joseph Pulitzer, dont on connaît bien le nom encore aujourd'hui, qui dirigeait le New York World, et de l'autre côté il y avait le New York Evening Journal de Randolph Hearst. Randolph Hearst, c'est ce mania de la presse dont Orson Welles
fait le portrait dans Citizen Kane.
Directement dans Citizen Kane, voilà, exactement. Et ces deux journaux, qui avaient des méthodes assez similaires, en fait, pas entièrement, mais en partie, sont menés une lutte acharnée, disons, pour être le journal le plus important de la ville.
Une lutte acharnée qui est passée par ce qu'on a appelé le yellow journalism. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi il s'agit?
En fait, ce journalisme jaune, dont le nom provient d'un personnage dessiné qui est apparu à la fois dans le journal de Pulitzer et ensuite un peu plus tard dans le journal de Hearst, c'est en fait un journalisme à sensation. Alors, c'est assez bizarre de dire ça lorsqu'on connaît le nom de Pulitzer aujourd'hui, bien entendu, parce que Pulitzer, son nom est associé à un journalisme sérieux, un journalisme d'investigation. Mais, par ailleurs, il y avait chez lui une volonté de faire évoluer le journalisme aussi en déployant toutes les armes possibles pour attirer le lecteur, disons, et faire évoluer la forme du journal, la forme graphique du journal, l'apparence du journal. Et donc on a des journaux, dans un cas comme dans l'autre, qui, par exemple, introduisent les images, introduisent des dessins dans un premier temps. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film de Fuller. Hein. Dans le film de Fuller, le premier numéro du Club et les autres qui suivent également laissent une place très importante en une au journal, à un dessin.
Donc ce journalisme jaune, finalement, on aurait tort de considérer que c'est un journalisme de mauvaise qualité. C'est plus compliqué que
ça. Oui, c'est un journalisme qui est fondamentalement ambivalent, en particulier lorsqu'il concerne Pulitzer, bien entendu, parce qu'il y a un côté sensationnaliste, oui, d'une certaine manière, et surtout par rapport aux journaux traditionnels de l'époque. Ce qu'on voit très bien au début du film de Fuller, c'est que un journal avant Pulitzer, avant Hearst, ça ressemblait quand même à une page remplie de colonnes très fines où rien n'était hiérarchisé, aucune information n'était hiérarchisée, où rien n'attirait l'œil en fait en particulier. Les informations pouvaient être très bien rédigées, très importantes. Quoi qu'il en soit, c'était très plat visuellement. D'une sorte d'ennui, en fait, une sorte de grisaille. Et notamment, le yellow journalism va introduire la couleur aussi. Elle va introduire, par exemple, en particulier l'utilisation du rouge pour mettre une nouvelle en évidence.
Dans Violence à Park Row, c'est l'imprimeur Charles Leach qui va permettre à Phineas Mitchell de trouver les fonds nécessaires pour lancer son propre journal.
All my life, I've wanted to be what you are, a newspaper man. What you can do, I can't. What you need, I've got. What I dream about. You are. I've got a good steam press. I've got a little credit at the type foundry. I've got a little newsprint. Got a little cash. I want to go into partnership, Mr. Mitchell. You be editor and publisher of a newspaper. I'll be printer and handle the business end. You've got the heart. I've got the hand. You've got the head. I've got the press.
Et j'ai toujours voulu être ce que vous êtes, un journaliste. Ce que vous faites, je ne le peux pas. Ce dont vous avez besoin, je l'ai. Ce dont je rêve, vous l'êtes. J'ai une presse à vapeur et du crédit à la fonderie. Un peu de papier, un peu d'argent. Je veux m'associer avec vous. Vous serez rédacteur et éditeur d'un journal. Je m'occuperai des affaires. Vous avez le cœur, j'ai les mains. Vous avez la tête, j'ai la presse. On assiste effectivement dans le film de Samuel Fuller au début du Globe et à toutes les stratégies pour fabriquer le journal le moins cher possible, Franck Laffont.
Oui, c'est très. Il y a une valeur éducative dans le film Fuller, c'est-à-dire qu'on voit effectivement comment ça fonctionne grâce à un personnage notamment d'apprenti qui découvre un certain nombre de termes techniques, qui découvre qu'on trie les caractères d'imprimerie, par exemple,
qui découvre que l'on dit sortie à la fin d'un papier 30.
Exactement, ça fait partie des choses. Et le film, ça s'achève non pas sur the end, mais sur 30 également. C'est quelque chose qui est. Il y a une valeur en fait éducative dans le film Le Fuller, comme il y avait une valeur éducative dans le Yellow Journalism en fait. Et ça, c'est important.
Il faut dire que la fin du 19e siècle, c'est une grande période d'innovation technique pour la presse, comme on peut le voir d'ailleurs dans le film Franck Lafont.
Oui, tout à fait. Et tout ça, c'est. Enfin, il y a notamment le personnage de Otmar Mergenthaler, cet Allemand qui va inventer l'inotype, cette machine à composer qui permet de composer plus rapidement et donc de réagir plus vite aux informations, aux scoops éventuellement. Et donc d'arriver dans la rue avant son concurrent.
Mais alors ça suscite la convoitise de Charity Hackett, qui est la grande concurrente du Globe, la patronne de The Star.
Oui, tout à fait. Donc il y a toujours en fait, quels que soient les idéaux des rédacteurs en chef, d'un rédacteur en chef comme Phineas Mitchell dans le film de Samuel Fuller, il y a toujours évidemment la question du tirage, d'augmenter le tirage. D'être le premier dans la rue et d'inventer aussi par exemple de nouvelles façons de distribuer le journal. Et ce qu'on voit dans le film avec ces mini kiosques, enfin de kiosques très rudimentaires qui sont installés dans la rue. Et à la fin, on parle encore de développer ce système en installant des points de vente dans les gares. Donc c'est quelque chose de très dynamique en fait ce que nous montre Fuller.
Mais pour être rentable, Franck Lafont, il faut réussir à créer un journal avec très peu de moyens parce que ce journal il va être ensuite vendu un penny et là tous les moyens sont bons, on utilise du papier de boucherie par exemple.
Oui, alors ça, j'avoue que je n'ai pas trop la confirmation de l'emploi de ce type de papier.
C'est intriguant en tout cas.
C'est intriguant. C'est-à-dire que c'est en fait, ce que Fuller nous montre, c'est vraiment cette dynamisme, cette volonté à tout prix de faire un journal pour imposer une nouvelle vision du journalisme. Et donc, peu importe finalement sur quoi on va imprimer, du moment que le journal arrive dans la rue et que les informations que l'on estime importante, arrive elle aussi, cette fois, au lecteur.
Justement, sur cet idéal du journalisme, je voudrais vous faire entendre un dernier extrait.
In most countries, there is no freedom of the press. In the United States, there is. This freedom was born in 1734 in the libel trial of John Peter Zenger, printer and publisher of the New York Weekly Journal. He was acquitted by jury. When anyone threatens your freedom to print the truth, think of Zenger, Franklin, Bennett, and Greeley. Think of them, fight for what they fought for and died for. Don't let anyone ever tell you what to print. Don't take advantage of your free press. Use it judiciously for your profession and your country. The press is good or evil, according to the character of those who direct it.
Ne vous laissez pas dire ce qu'il faut imprimer, n'abusez pas de votre liberté, mettez-la au service de votre métier et de votre pays. La presse est bonne ou mauvaise en fonction de ceux qui la dirigent. La lettre de Josiah Davenport, un vieux journaliste qui passe le flambeau à Phineas Mitchell. Pour conclure, Franck Lafont, puisqu'on arrive vraiment à la toute fin de l'émission, il nous reste très peu de temps, mais simplement un mot sur le fait que Mitchell veut se démarquer de la ligne éditoriale de Charity Hackett, mais en réalité, lui aussi est parfois capable de renoncer à ses idéaux pour vendre plus. C'est aussi ce que le film raconte.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, l'image d'une personne comme Joseph Pulitzer, sur laquelle Phineas Mitchell est en partie basé. C'est-à-dire qu'on a des idéaux, de grands idéaux, avec des figures tutélaires qui sont mentionnées dans le film à plusieurs moments, comme Horace Greeley, par exemple. Et en même temps, il faut faire vivre le journal et on n'hésite pas à créer des nouvelles d'une certaine manière. Ou du moins à inciter certains personnages de son entourage à faire certains actes, comme sauter du haut du pont de Brooklyn. Et ensuite,
ce qui est largement, effectivement, contestable. Un grand merci à Franck Laffont de nous avoir offert un autre regard sur l'économie de la presse. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Samuel Fuller, jusqu'à l'épuisement, publié aux éditions Rouge Profond. Et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovin, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation, à Sia Ralid, à la technique aujourd'hui, Michael Simon. La semaine prochaine, l'écho s'infiltre dans les réseaux mafieux pour suivre le fil de l'argent sale, nouvelle série consacrée à l'économie du crime.